Vous écoutez Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal avec Sophie Tussaud.
Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de la nuit à la une de l'actualité ce soir. La douleur et l'émotion en Nouvelle-Zélande après des attentats dans deux mosquées, des tueries commises par un suprémaciste blanc. Ils sont orphelins au moins de mère. La France a rapatrié aujourd'hui 5 enfants de djihadistes en Syrie. Mobilisation mondiale des jeunes pour le climat à Paris. Ils étaient entre 30 et 40 000. Raphaël Glucksmann veut porter les idées de la gauche aux élections européennes. Il sera tête de liste et pense pouvoir créer la surprise. Le football, 29e journée de Ligue 1 en ce moment. Lille-Monaco, Sébastien Boé.
Eh bien, toujours 0-0 après 59 minutes de jeu ici au Stade Permanroy. Score nul et vierge. Et pourtant, les occasions ne manquent pas.
Merci Sébastien Boé, on vous retrouve à la fin de ce journal. Également dans votre journal de la nuit, comme tous les soirs, la Bourse avec Didier Hameau. L'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jérôme Taffany, le directeur général de Burger King. Sans oublier les unes de la presse de demain.
Europe 1.
La Nouvelle-Zélande sous le choc, la première ministre évoque l'une des journées les plus sombres de l'histoire du pays. En début d'après-midi, à Christchurch, un homme a fait irruption dans deux mosquées au moment de la prière du vendredi avant de tirer sur les fidèles. Le bilan est très lourd, au moins 49 morts et des dizaines de blessés. Farid était présent dans l'une des mosquées.
L'imam venait de commencer son sermon. C'était très paisible et calme. Et tout à coup, la fusillade a commencé. Certaines personnes étaient couvertes de sang, certaines personnes boitaient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce qui se passait était très grave. J'entendais des tirs et des tirs et des tirs. Ça a duré au moins 6 minutes. Et j'entendais des cris, des pleurs, et des gens étaient morts sur le sol. Je ne pouvais aller nulle part et je ne voulais pas partir parce que j'avais peur de ce qui pouvait arriver aux femmes et à ma femme.
Farid, l'un des témoins de la tuerie et le tireur, un Australien de 28 ans, a été interpellé. On apprend ce soir qu'il avait un permis de port d'armes. Jean-Sébastien Soldaini, qui est cet homme ?
Il s'appelle Brenton Tarrant. Il a rédigé un document de 73 pages pour s'expliquer, un manifeste intitulé « Le grand remplacement ». C'est le nom d'une théorie complotiste selon laquelle tout serait fait pour que les populations noires et arabes prennent la place des Européens. Théorie d'extrême droite dont il se revendique. Il aurait pensé à commettre un tel acte alors qu'il se trouvait en France au printemps 2017. Cette présence, elle est encore en cours de vérification. Et c'est à ce moment-là qu'il dit avoir pris conscience que l'extrême droite ne pouvait pas l'emporter à l'élection présidentielle française. Ces écrits sont rédigés comme une interview. Êtes-vous nazi? Non. Êtes-vous raciste? Oui. Soutenez-vous le Front National? Non, car ils sont incapables de créer le changement, dit-il. Pêle-mêle, il s'en prend aux conservateurs, aux antifas, aux marxistes, aux chrétiens. Ces modèles sont Anders Breivik, l'auteur de la tuerie d'Utøya, vous rappelez, ou bien Darren Osborne, assaillant de la mosquée de Finsbury Park à Londres. Il dit d'abord avoir appris à tirer dans les jeux vidéo, et puis il se revendique des unités d'élite américaines. Beaucoup d'incohérences, peu de lucidité, sauf peut-être sur un point. À la question « Est-ce un attentat terroriste ?», il répond « Oui, par définition, c'en est un ».
Jean-Sébastien Soldaini. Alors concernant ses références à la France, Christophe Castaner indique que l'homme n'était pas connu des services français. En parallèle, une enquête a été ouverte en Bulgarie après un récent séjour du tireur dans le pays. Par ailleurs, réaction ce soir de Donald Trump. Si le président américain a condamné dans la journée cet attentat, il estime que l'idéologie de la suprématie blanche n'est pas une menace répandue. Autre titre de l'actualité de ce vendredi soir. Ils sont les premiers à rentrer en France. Après des semaines de débats, Paris a rapatrié 5 enfants de djihadistes présents dans un camp du nord-est de la Syrie. Ils sont âgés de 1 à 5 ans et sont tous orphelins, au moins de mère. Ils ont été remis aux autorités judiciaires et font l'objet d'un suivi médical et psychologique. Parmi eux, une fratrie de 3 frères dont la mère est décédée dans un bombardement il y a 6 mois. Leurs grands-parents avaient écrit le mois dernier à Emmanuel Macron pour pour lui demander de faire preuve d'humanité. Leur grand-mère, Lydie Manincheda, est soulagée.
Nous remercions l'État français d'avoir ramené aussi rapidement nos petits-enfants, qui sont donc pris en charge maintenant sur le plan sanitaire. Et ce qui est le plus important pour nous, c'est de les avoir en sécurité. On ne retrouvera malheureusement plus notre fille, mais par contre, nous sommes heureux de pouvoir retrouver ces petits-enfants et j'espère qu'on nous les confiera et puis qu'on pourra les élever et qu'elles soient fières d'eux, où elles soient.
Maintenant, ils ont un avenir, ces petits ?
Oui, ils sont sur le territoire français, ils sont en sécurité, ils vont retrouver la santé et j'espère aussi, ils vont devenir des citoyens français.
La grand-mère de trois des enfants de djihadistes rapatriés aujourd'hui en France au micro européen de Lionel Gougelot. Les jeunes du monde entier sont descendus dans les rues aujourd'hui pour la défense du climat. Des manifestations dans 123 pays, selon l'instigatrice du mouvement, l'adolescente suédoise Greta Thunberg. En France, des rassemblements ont eu lieu dans de nombreuses villes. À Paris, ils étaient entre 29 000 selon la police et 40 000 selon les organisateurs à s'être donné rendez-vous entre le Panthéon et les Invalides.
Pour moi, c'est beaucoup plus important de faire ce genre de manifestation parce que c'est pas une journée de cours qui va changer le futur, alors que très clairement, manifester pour le climat, là, cette manifestation, c'est possible que ça change les choses.
Et c'est toute une génération, la génération 2000 jusqu'à 2006-2007, j'ai vu des jeunes, ils étaient super petits. C'est bien que tout le monde prenne conscience de la même chose au bon moment.
On se rend compte au final que les adultes font rien, que les accords de la COP21 sont pas respectés, qu'il n'y a rien qui se passe. Et du coup, on se dit que faut nous se mobiliser parce que c'est nous qui allons être là plus tard sur cette planète et que faut qu'on soit là pour montrer que nous, on veut pas d'une planète abîmée.
J'aimerais dire à mes petits-enfants que j'ai fait cette marche si ça prend vraiment bien de l'ampleur. Plus tard, si ça marque l'histoire, s'il y a un changement lié à ça, qui débute grâce à ça, j'aimerais dire oui, c'est moi aussi j'ai participé à ça.
Des témoignages recueillis pour Europe 1 par Bastien Munch et demain de très nombreuses manifestations pour le climat sont également prévues dans le cadre de la marche du siècle. Autre mobilisation, la contestation anti-Bouteflika en Algérie. Les Algériens ont manifesté pour le quatrième vendredi consécutif. Foule impressionnante rassemblée dans le centre d'Alger contre la prolongation sine die du mandat du président. Ce vendredi marque la fin de la première partie du grand débat national lancé il y a 2 mois. En attendant les réponses du gouvernement aux attentes des Gilets jaunes, une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain. Un acte 18, d'ores et déjà annoncé comme mémorable par les manifestants. Christophe Castaner a indiqué que les forces de l'ordre seraient particulièrement vigilantes en raison du risque de présence d'ultra-violents dans le défilé parisien. Christophe Castaner qui, par ailleurs, a dû faire face à une polémique après avoir été pris en photo samedi soir dernier dans une boîte de nuit parisienne et ce quelques heures après l'acte 17 et alors que les forces de l'ordre étaient sur le qui-vive, loin des dance floors. Changement de registre aujourd'hui pour le ministre de l'Intérieur lors d'un déplacement en Gironde, Stéphane Place.
Oui, et puis avec un changement de registre complet, notamment sur le plan musical, un chant militaire, passage en revue des troupes ici à Saint-Astier, concentré, le visage un peu fermé. Le ministre de l'Intérieur a assisté également à un exercice de maintien de l'ordre dans les odeurs âcres de gaz lacrymogène au Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie et sous une pluie fine, les seules étoiles qui brillaient étaient celles qui ornent les képis et manches des généraux. Alors après avoir salué dans son discours la mobilisation des militaires et des policiers, Christophe Castaner n'a effectivement pas échappé à une question sur les images que vous évoquiez de cette soirée festive, images parues dans la presse.
Cela ne m'empêche pas de répondre à une invitation à un anniversaire dans un restaurant et de pouvoir m'y rendre librement. Le reste relève de la vie privée, parce que ce qui compte, c'est la capacité du ministre à être dans la totalité de l'exercice de ses fonctions. C'est mon cas. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Rassurez-vous, j'ai conscience de l'enjeu de sécurité des Français, des ministres et du ministre de l'Intérieur. Il n'y a pas de polémique, si ce n'est ceux qui ne savent pas, ma sécurité est toujours assurée. Mais nous étions dans un lieu privé, dans un restaurant, et évidemment, elle sait aussi se faire efficace et discrète.
En clair, circuler, il n'y a rien à voir, dit le premier flic de France, même si, avouons-le, dans son sillage aujourd'hui, certains curieux cherchaient vidéos et photos de la soirée sur les réseaux sociaux, tout en fredonnant discrètement des musiques disco.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde. Dans 2 mois et demi, les élections européennes, l'essayiste Raphaël Glucksmann sera tête de liste de gauche, qui devrait recevoir d'ailleurs demain le soutien du Parti Socialiste et invité d'Europe 1 ce soir. Il se dit persuadé de pouvoir créer la surprise.
On ira jusqu'au bout et si les Verts veulent rejoindre cette dynamique de rassemblement, eh bien c'est très bien. Simplement, la question qui se pose à chacun.
Vous seriez prêt à lui laisser la tête de liste, Raphaël Glucksmann ? C'était ma question.
Mais là, en sens, moi, j'ai proposé à Yannick Jadot d'être tête de liste d'une liste de rassemblement. Il a refusé. Et ensuite, il a expliqué que la recomposition de la gauche n'est pas son affaire. Et ensuite, il nous explique qu'il ne peut pas s'allier au Parti Socialiste en France, mais que par contre, on peut faire une alliance avec les conservateurs à l'échelle européenne. Donc, il y a là un problème. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une nouvelle offre politique à créer. Une offre qui, justement, fonde le retour de l'exigence social-démocrate de justice sociale, eh bien, sur une politique écologiste. Et c'est cette offre-là, cette union-là, ce mariage-là sur le fond qui va permettre, je pense, réellement de créer la surprise des élections européennes.
Raphaël Glucksmann répondait à Mathieu Béliard sur Europe 1. C'est le meilleur résultat depuis 18 ans, mais c'est moins bien que ce qu'attendait le gouvernement l'année dernière. Le déficit de la sécurité sociale a été divisé par 4 à 1,3 milliard d'euros, alors qu'il tablait sur 1 milliard. C'est un nouveau service qui a été lancé aujourd'hui. Le portail info-retraite.fr centralise désormais tous les documents et justificatifs, ce qui devrait faciliter les démarches de départ en retraite, Olivier Samin.
Oui, jusqu'à présent, vous deviez lancer la démarche auprès de chaque régime auquel vous avez cotisé. La retraite de base, la retraite complémentaire et, le cas échéant, d'autres régimes, du privé ou du public, par lesquels vous êtes passé à un moment de votre carrière. Désormais, une seule entrée suffit et la demande se répercute automatiquement à toutes les caisses auxquelles vous avez cotisé. Soit vous passez par votre compte-retraite, si vous l'avez créé, évidemment, compte que vous retrouvez sur le site info-retraite.fr, soit vous passez par le site de l'une des caisses dont vous dépendez. Alors l'intérêt, il est double. Un, vous gagnez du temps. Et deux, ça vous permet de ne rien oublier, y compris des jobs d'été que vous aviez fait quand vous aviez 18 ans. S'ils ont disparu de votre mémoire, le système, lui, va s'en souvenir et il ira automatiquement chercher la caisse de retraite concernée.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1. Le parquet de Paris demande la levée de l'immunité diplomatique du nonce apostolique. Le représentant du Vatican en France est visé par 3 plaintes pour agression sexuelle. Selon une information d'Europe 1, la France n'entend pas lever cette immunité. Scandaleux, selon Maître Fréty, l'avocat d'un des plaignants.
On est dans une attitude qui consiste à se débiner. On est sur une véritable réitération de faits de même nature qui mérite quand même qu'on enquête dessus. On ne peut pas opposer en cette période où l'Église aurait besoin véritablement de transparence et de montrer qu'elle participe à la justice laïque des États. On ne peut pas opposer l'immunité et surtout s'arranger entre États pour ne pas laisser la justice suivre son cours.
Maître Fréty interrogé pour Europe 1 par Pierre de Cossette. C'est une promesse du gouvernement socialiste en Espagne que Franco ne repose plus dans un mausolée. Madrid envisage donc de l'exhumer le 10 juin prochain pour l'enterrer dans un cimetière aux côtés de son épouse. La Coupe du monde de football va-t-elle changer de format ? En tous les cas, la FIFA recommande de porter de 32 à 48 le nombre d'équipes à compter du mondial qui se tiendra au Qatar en 2022. La décision finale sera prise en juin. Le football toujours, mais côté terrain cette fois, c'est le début ce soir de la 29e journée de Ligue 1, Lille-Monaco. Qu'est-ce que ça donne, Sébastien Boé ?
Eh bien, toujours 0-0 après 71 minutes de jeu, score nul et vierge, et pourtant les occasions ne manquent pas, des occasions à l'appel de part et d'autre avec les Lillois qui sont montrés les plus dangereux en première période, avec notamment Jonathan Bamba qui a vu sa frappe renvoyée par la transversale à la 11e, ou encore l'arrêt décisif de Subasic face à Nicolas Pépé à la 45e. Et en seconde période, ce sont les Monégasques qui se montrent les plus menaçants avec de grosses occasions de Martins, deux frappes renvoyées par un Mac Maignan impeccable, match très plaisant avec beaucoup de rythme et qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. Le spectacle est au rendez-vous et si les Lillois, deuxième du championnat, venaient à gagner ce soir, ils pourraient reléguer l'Olympique Lyonnais à 10 points et mettraient la pression sur cette équipe de Lyon qui affrontera Montpellier dimanche. Mais pour le moment, le LOSC bute sur un excellent Monaco, 72 minutes de jeu et donc toujours ce score de 0 partout.
Merci Sébastien Boé en direct de Lille pour Europe 1. On vous retrouvera dans une dizaine de minutes pour avoir le score final. À noter qu'avant cette rencontre, Nice et Toulouse se sont quittés sur le score nul de 1 but partout. Le temps. Valérie Darmon, demain les éclaircies reviennent, mais ça ne va pas durer.
Tout à fait, Sophie. Il faut juste patienter parce que le matin, le ciel sera encore couvert sur la majorité de la France, avec même quelques brouillards locaux dans le sud-ouest et sur le littoral des Alpes-Maritimes et quelques faibles pluies résiduelles sur les régions allant de l'Alsace aux Hauts-de-France. Et ensuite, seulement à la mi-journée, le ciel va s'éclaircir magistralement, le temps redevenir sec et ensoleillé depuis le sud jusqu'au nord. Demain matin, les températures seront au-dessus des normales de saison déjà sur la moitié nord et proches des normales dans le sud. Il est prévu entre 2 et 11 degrés et les maximales au-dessus des normales, bien évidemment, l'après-midi, comprises entre 12 et 25, 25 annoncés à Saint-Girons.
Merci Valérie Darmon. Restez avec nous. Restez avec nous, il est 22h15 à suivre dans votre journal de la nuit La Bourse avec Didier Hamot et l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Jérôme Taffani, le directeur général de Burger King. On se retrouve dans un très court instant.
Europe 1. Le journal de la nuit avec Sophie Tussaud sur Europe 1.
Et il est 22h16, on fait un point sur la bourse avec vous, Didier Hamot de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Sophie.
Et Didier, Wall Street termine la semaine en progression.
Ça monte encore, plus 0,54% sur le Dow Jones, 25 848 points. Le Nasdaq, l'indice des valeurs de technologie, prend 0,76%, 7 688 points. Américains et Chinois ont évoqué des avancées substantielles dans leurs négociations commerciales. Ça aide donc les marchés à monter avec les valeurs de technologie qui ont encore donné le ton, en particulier l'électronicien Broadcom qui prend 9% après de bons résultats trimestriels. Amazon encore plus 1,5% avec des avis favorables de certains analystes et puis Microsoft plus 2%. Apple monte d'1,3% à $186. Il y a quand même une exception, Facebook recule encore de 1,8% après les récents soucis techniques rencontrés par la plateforme et des remous au sein du management. Le pétrole est stable, $67 le Brent. L'euro campe aussi sur les 1,13, 1,1320 face au dollar.
Alors, et à Paris, une jolie semaine puisque le CAC affiche une cinquième séance de hausse.
Ça continue, plus 3% sur la semaine, plus 1% aujourd'hui, 1,04% exactement, 5 405 points, donc au-dessus des 5 400 points, au plus haut depuis 5 mois et demi, après le report du Brexit hier soir en Angleterre, qui a aidé la tendance boursière en Europe, de quoi aligner donc effectivement une cinquième séance de hausse consécutive. Certains groupes exportateurs ont encore progressé, STM, plus 5%, STMicro, Atos a repris 3,2%, Valeo plus 2,9%, Bouygues plus 2,8%, et puis Korian prend 3,9%. Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a revu à la hausse ses prévisions de résultats en 2019. Korian donc plus 3,9% à la clôture.
Et dans toutes ces hausses, eh bien, il y a forcément un petit point noir. Et aujourd'hui, le gadin du jour, c'est Casino.
Toujours Casino, oui. Cette fois, perd 6%, un peu plus, 6,5%. De retour à 40,99€, au plus bas depuis un mois et demi, après des comptes discutés. On va dire le distributeur est toujours plombé par une lourde dette malgré les récentes cessions d'actifs pilotées par la direction de Casino. Sur les autres places financières, ça monte partout. Le DAX à Francfort plus 0,8, Bruxelles plus 0,8% aussi, 0,8 de mieux. Madrid plus 1,4%, Milan plus 0,9, Londres plus 0,6 et le CAC 40 donc en hausse d'1,04%, 5 405 points.
Merci Didier Hamot de boursier.com. Vous retrouverez la bourse à lundi soir sur Europe 1. Il est 22h19, c'est l'heure du rendez-vous éco avec Emmanuel Duteil et son invité. Emmanuel, vous recevez ce soir Jérôme Taffani, le directeur général de Burger King.
Bonsoir Jérôme Taffani.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de Burger King en France. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que vous allez bientôt la réussir à ouvrir le 300e magasin et vous en profitez pour annoncer que vous allez avoir un petit peu plus de produits Made in France. Alors c'est vrai pour les bonnes, comme on dit chez vous, 100% je crois vont être français. C'est vrai aussi des pommes de terre. C'était important pour vous, parce que maintenant vous êtes bien placé en France, de dire on est là, français aussi.
Alors c'est important pour nos consommateurs, c'est important pour nous en tant qu'entreprise citoyenne, et ça a toujours été un désir. Simplement quand on a peu de restaurants, il est difficile de trouver des partenaires qui ont confiance dans l'investissement, qui est très significatif, puisque si je prends l'usine de Bun que vous avez citée, qui est opérationnelle depuis quelques semaines, c'est un investissement de l'ordre de 37 millions d'euros. Donc il faut beaucoup de temps pour l'amortir, et il faut être sûr qu'on a affaire à un vrai partenaire. Donc cette usine est un outil qui avec de l'emploi français en France, et qui se fournit 100% farine française.
Est-ce qu'on va chercher un peu de bio? Le consommateur, il recherche aussi ça?
Le consommateur, il cherche de la qualité, il cherche à manger bon, et vu les volumes que nous, on amène, et les contraintes de sécurité alimentaire, on est pour l'instant plutôt sur de l'agriculture raisonnée que sur du bio. C'est-à-dire qu'on est plutôt à mettre des règles sur la consommation d'eau, sur la consommation des pesticides, que du 100% bio, pour lequel, de toute manière, on n'aurait pas la quantité. Et donc aujourd'hui, vous le savez bien, le bio, une grande partie aujourd'hui en France, est importée, donc ne bénéficie pas à la culture française. Et il y a aussi une grande difficulté dans le bio, c'est que la qualité des labels sur les produits importés n'est pas toujours facile à contrôler. Donc aujourd'hui, on estime qu'on a une meilleure qualité en travaillant avec l'agriculture française et en faisant de l'agriculture raisonnée.
Mais ce que vous dites, s'il y a plus de bio en France, à ce moment-là, je regarderai.
Bien sûr, et donc on travaille pour être très, très vite sur une petite partie, puisqu'on ne pourra pas le faire sur tout, mais par exemple sur les menus enfants, on pense que dans les mois à venir, on sera capable d'avoir des menus bio.
Quand Burger King est revenu en France, après avoir disparu pendant quelques années, ça a été un événement. Il y a eu des files d'attente comme il existe dans très très peu de restaurants. Est-ce que maintenant que vous êtes justement à 300, l'effet de mode est passé?
L'effet de mode n'est pas passé, les files d'attente ont été réduites, heureusement pour nos consommateurs, parce que je les remercie d'avoir quelquefois fait une heure de queue pour un Whopper. Aujourd'hui, on a toujours des fans, on est capable de les répartir, de les accueillir dans plus de restaurants, donc la queue est moins longue, mais on le voit typiquement lorsqu'on convertit par exemple un restaurant Quick en Burger King, qu'on ouvre un nouveau Burger King, on a sur les premiers mois des volumes qui sont toujours absolument anormaux. Mais,
quand vous dites anormaux, c'est-à-dire qu'ils dépassent même vos attentes. Alors que toujours. Vous connaissez aujourd'hui quand toujours. Même la façon dont ça se passe.
Ils sont énormes, ils dépassent aux attentes et ils sont liés, j'irais, à un côté événementiel de l'ouverture. Et 6 mois après, les choses se calment un petit peu puisqu'on continue à ouvrir, les gens se répartissent. Mais on a toujours, au moment de l'ouverture, notamment dans une nouvelle ville, le premier Burger King dans une ville, c'est toujours un événement.
Un chiffre assez fou, vous ouvrez un nouveau magasin tous les 4 jours.
Oui,
c'est ça?
Alors, en réalité, j'espérais pouvoir aussi vite et grâce à l'accueil du consommateur, on a pu le faire puisque je suis arrivé tout début 2016, juste après le rachat de Quick, il y avait une quarantaine de restaurants, aujourd'hui 300 restaurants. Donc c'est en effet un rythme très très rapide qui correspond à ce que vous avez dit.
Et avec du coup l'ambition d'aller à 600 restaurants d'ici un an et demi, c'est ça?
Aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait aller vite. On est sur un rythme de, allez, on va dire 70 à 100 restaurants par an. Et il n'y a pas de limite. Quand je suis arrivé, en effet, j'ai mis un horizon qui correspondait à je dirais, la fin de la conversion des Quick. Parce que 40 restaurants, les
donc
gens n'avaient pas imaginé.
Donc finalement, 600, aujourd'hui, ce ne sera jamais qu'une étape et vous voulez aller beaucoup plus loin que ça?
Vous savez, le leader du marché est à 1500 restaurants.
À certains McDonald's.
Que tout le monde connaît.
Il paraît.
Il paraît. À 1500 restaurants et 5 milliards. Cette année, nous, on va finir l'année avec peut-être 370 restaurants et 1 milliard de chiffre d'affaires. Donc je pense que là, on a encore beaucoup, beaucoup de place dans le paysage français. Je ne vais pas vous dire quand, mais on aura un jour 1000 restaurants.
Vous citez justement McDonald's comme l'un de vos concurrents, mais est-ce que finalement le vrai concurrent aujourd'hui, ce n'est pas toutes ces petites chaînes de burgers qui se présentent comme des burgers peut-être un petit peu plus artisanaux, qui sont plus chers que ce que vous vendez, mais est-ce que l'idée n'est peut-être pas, on va aller moins dans des restaurants de fast-food comme vous ou comme McDonald's pour de temps en temps aller plus souvent
Toutes les offres de restaurants
c'est aujourd'hui votre vrai concurrent?
Non. Honnêtement, non. D'abord, il faut être réaliste pour les raisons que vous évoquez. Ce sont des offres très parisiennes ou urbaines. Et aujourd'hui, en présence nationale, on retrouve très peu ces acteurs. Et ces acteurs sont plus des lieux de destination. Et pour moi, je dirais qu'ils enrichissent le paysage du burger. Ils ont contribué à premiumiser le burger. Mais ce n'est pas du tout ça qui pénalise notre croissance.
Dans certains Burger King, vous avez testé et vous faites la livraison à domicile, notamment par Deliveroo, qui existe dans la plupart des grandes villes françaises. Un, est-ce que ça marche ou c'est totalement marginal? Et deux, est-ce que vous allez le poursuivre et le prolonger?
Alors, il y a un an, j'étais très sceptique sur les livraisons à domicile parce que j'étais très inquiet sur la qualité de ce qu'on allait livrer chez les gens et j'avais peur d'abîmer ma marque.
Tiens, vous aviez peur que ce soit tiède en arrivant?
Voilà, ça. Que ce soit pas bon. Mmh. Et les gens étant habitués sur d'autres plats, comme par exemple la pizza, à les réchauffer. Une pizza, ça peut se réchauffer assez facilement dans un four. Quand vous réchauffez un Whopper dans un micro-ondes, le résultat est assez médiocre, on va dire.
Et du coup, un an après, vous êtes rassuré?
Je suis rassuré. On a travaillé, alors j'ai mis du temps pour y aller. Je suis arrivé après les autres. Ça marche très fort. On a travaillé sur des packagings spécifiques qui permettent d'assurer la qualité. Et je dirais qu'aujourd'hui, quand vous dirigez une chaîne de restauration, la question n'est même pas de savoir s'il faut le faire ou pas le faire. C'est tellement important dans les grandes villes.
Vous regrettez aujourd'hui d'avoir mis un peu de temps à y aller?
Peut-être. Je suis content parce que j'ai fait de la qualité. Mais c'est clair que ça aurait été une erreur de ne pas y aller. C'est comme si aujourd'hui, vous posez la question, est-ce que j'accepte ou pas la carte bleue? si vous ne l'acceptez pas, vous fermez.
Mais en tout cas, ça marche. La secrétaire d'État, Brune Poirson, vous a dit, vous et vos concurrents, pas que Burger King, vous êtes gentils, mais vous ne savez pas gérer vos déchets. Vous avez 2 mois pour régler la situation, pour gérer vos déchets. Si je ne dis pas de bêtises, c'est le 28 janvier qu'elle vous a dit ça. C'est fait ?
Alors, d'abord, elle n'a pas dit ça exactement.
Ah ben, j'ai relu la...
Relisez le communiqué. Je l'ai relu avant de venir.
Enfin bon, grosso modo, elle vous a dit, vous avez deux mois pour vous mettre en conformité avec la législation. Donc, est-ce que c'est fait ?
On est en train de la clarifier. On est en train d'avancer parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse. Sachant qu'on n'est qu'un maillon de toute une filière où beaucoup de gens ont avancé. Et donc, on a dit qu'on présentait au mois de mars, fin mars, le plan pour une mise en œuvre sur la fin de l'année. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être élaboré. On va le présenter. La ministre a précisé d'ailleurs un certain nombre de points de la réglementation qui étaient flous, puisqu'on était en salle soumis à 2 réglementations contradictoires. Donc, les choses ont été clarifiées. Et donc, on avance au sens pour progresser. Sachant qu'on ne pourra pas progresser si l'ensemble de la filière ne progresse pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va trier. Mais s'il n'y a personne pour collecter, ben, ça va refinir en enfouissement comme aujourd'hui. Bon, on va trier en cuisine, ça très vite. On triait déjà, donc c'est juste des choses qui avaient été abandonnées parce que ce n'était pas collecté. Donc, on va trier, on va jouer le jeu. On va dire, voilà, on le met à disposition et montrez-nous ce que vous en faites. Alors, je sais que sur les plastiques, un certain nombre d'industriels ont pris des engagements très clairs d'utiliser plus de matière. Donc je pense qu'on va, sur les plastiques, bien avancer. Par contre, sur les biodéchets, on est très très loin d'avoir des solutions techniques en place partout. Donc on va avancer pour essayer d'aller dans ce sens-là, mais il faut... par ailleurs que des filières existent pour collecter et traiter ces biodéchets.
Et ben, en tout cas, ce sera l'occasion de vous réinviter pour voir si vous avez bien réussi à tenir tous ces engagements. Un grand merci Jérôme Tafani, qui est donc le patron en France de Burger King, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. On se retrouve lundi 22h20.
Merci Emmanuel Dutheil. Bon week-end, à lundi. C'était l'invité Écho. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview sur le site d'Europe 1, europe1.fr. Restez avec nous, on jette un coup d'œil sur les titres que vous retrouverez à la une de vos journaux demain. Tout de suite. À la une de la presse demain, du noir et un corps qui gît. En première page de Libération, terreur raciste, écrit le quotidien après l'attentat qui a secoué ce matin la Nouvelle-Zélande. L'attentat d'extrême droite qui a ciblé des musulmans a fait au moins 49 morts à Christchurch. Le pays pour la première fois confronté à ce genre d'attaque est sous le choc. Le Figaro titre sur l'Algérie. Les manifestants réclament la fin du régime pour le 4e vendredi consécutif. Le pays a connu une mobilisation gigantesque contre la prolongation sinédiée du mandat du président fantôme Abdelaziz Bouteflika. Autre mobilisation, celle des jeunes contre le réchauffement climatique, que vous pouvez retrouver à la une des journaux de vos quotidiens régionaux demain. Marche pour le climat, ils étaient des milliers, titre Ouest France. Climat, la jeunesse au rendez-vous. Près de 5000 lycéens dans les rues de Strasbourg pour les DNA, les dernières nouvelles d'Alsace. Pour l'Est éclair, ils sont inquiets pour la planète, la jeunesse auboise. Sonne la révolte pour le climat. Ils étaient un millier à Troyes, un premier rendez-vous qui en appelle d'autres. Le Figaro Économie revient sur Cambridge Analytica, le scandale qui a changé le web révélé il y a un an. Cette affaire a chamboulé l'image de Facebook et de son patron. La gestion des données est devenue une préoccupation centrale d'Internet. Et puis, La Croix nous emmène en voyage, un voyage pas très loin, un voyage à Paris, fascinant Pharaon, à l'occasion de l'exposition Toutankhamon, le trésor du Pharaon. Coup de projecteur sur les dernières avancées en matière d'égyptologie. Avant de retrouver Sabine Marin pour la Libre Antenne, on fait un détour par Lille. Le match de football est maintenant terminé. Est-ce que le score a finalement été ouvert, Sébastien Bowie?
Ça joue toujours. Ça joue toujours. Il reste peu de temps, 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette partie où il ne manque finalement que les buts. Pourtant, il y en a des occasions pour le LOSC comme pour Monaco. La plus belle occasion d'ailleurs, il faut le rappeler, est lilloise avec Jonathan Bamba qui a vu sa frappe renvoyée par la transversale. C'était à la 11e minute. Et puis, on a surtout vu deux grands gardiens ce soir réaliser de magnifiques parades. Subasic pour Monaco face à Nicolas Pépé ou encore Mike Maignan face à Martins par deux fois. Match très emballant. très rythmé. Ça peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. Il y a donc du rythme, il y a du spectacle. Mais Lille, deuxième du championnat, qui espérait reléguer Lyon à 10 points en 4 victoires. But pour l'instant sur un excellent Monaco et va sûrement, sûrement devoir se contenter du point du match nul. Lyon, d'ailleurs, jouera face à Montpellier. Ce sera dimanche. Le chrono, on le rappelle, une grosse minute encore à jouer dans le temps réglementaire. Et le score, pour l'instant, ne bouge pas. 0-0 entre le LOSC et Monaco.
Merci Sébastien Boé en direct de Lille pour Europe 1. Il est maintenant 22h30 et on retrouve Sabine Marin, c'est la Libre Antenne. Bonsoir Sabine.
Bonsoir Sophie. Et on dit que les femmes sont bavardes, mais quand j'écoute les sportifs, là là là.
Oui, mais c'est sympa quand même.
Oui, j'imagine qu'on en saura plus d'ici une demi-heure. Vous revenez pour
exactement,
un nouveau point.
Exactement, je vous dirai tout ça dans
ça
une demi-heure.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.